L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Transistor ex Radio Évasion. C'est en direct à midi, c'est rediffusé à 18h. Aujourd'hui, nous retrouvons l'établissement public d'aménagement et de gestion du bassin versant de l'Aulne et de l'Yerre, alias l'EPAGA. Il s'agit d'une structure qui veille sur l'eau de notre territoire, aussi bien la qualité des cours d'eau et donc aussi leur écologie, que l'approvisionnement en eau potable. Il y a aussi les questions d'éventuelles sécheresses, des éventuelles inondations, qui est du ressort de l'EPAGA. D'autres questions encore liées au milieu sauvage et à leur écologie. Et c'est pour cette raison qu'on s'échappe aujourd'hui vers nos jardins. Ils sont peut-être luxuriants en ce moment. Le printemps est passé par là, tout pousse. Les tondeuses sont sorties et autres engins bruyants. Mais oui, il faut bien entretenir. Eh bien, je pose la question. Faut-il vraiment ratiboiser les pelouses, faire en sorte que rien ne dépasse, faire propre, comme on dit? Moi, je dirais plutôt faire mort. Enfin, c'est mon avis. On commence à comprendre qu'à force de maîtriser la nature à tout crin, on l'a réduit à néant. Les abeilles qui disparaissent, les populations d'oiseaux qui s'effondrent. Il est certes question de beauté, mais à terme, c'est notre santé qui sera bel et bien menacée et dans pas si longtemps. Donc on va aller au jardin, on va se tourner vers un jardin qui privilégie la biodiversité avec Nora Abo qui est chargée de mission Braise Bocage, assistante de prévention de l'EPAGA, et Jonas Gestin qui est chargée de communication. Bonjour.
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 Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce jardin qui privilégie la biodiversité pour commencer?
Avant tout, merci de recevoir l'EPAGA une nouvelle fois sur vos ondes. Donc c'est le début de l'été, les gens s'affairent dans leur jardin. On s'est dit que c'était le moment opportun pour partager quelques conseils et idées pour faire de ces jardins un sanctuaire de biodiversité. En tout cas pour ceux qui le souhaitent. Donc le jardin, c'est un monde en soi. Et à l'instar d'une autre, on se doit d'en prendre soin en respectant son équilibre et les différentes interactions qui seront donc amenées à le composer naturellement. Et un jardin naturel donc, présente de nombreux avantages, tant pour l'environnement que pour les humains qui en profitent.
Oui, lesquels par exemple?
Alors on peut citer en effet quelques avantages. Donc un avantage pour la biodiversité, un jardin naturel ça implique une pluralité d'espèces végétales et animales. Ça a aussi un avantage pour la santé du sol, on va le développer après. Donc on a aussi un avantage au niveau des économies d'eau, donc plusieurs méthodes sont possibles, différents aménagements dans le jardin d'un particulier pour accueillir l'eau en période hivernale par exemple, pour ensuite le restituer au sol l'été. Et il sera aussi question de résilience climatique. Donc voilà, c'est un ensemble d'avantages au niveau de la biodiversité. Mais oui, il y a aussi des avantages pour l'homme.
Mais oui, lesquels alors?
Alors, ce n'est plus à prouver, donc travailler et passer du temps dans un environnement naturel, quel qu'il soit, ça a des effets bénéfiques sur la santé psychologique et physique, ça réduit le stress, améliore le bien-être général, c'est ce que l'on peut même observer, nous, lors de nos interventions dans des écoles ou lors des animations des aires terrestres éducatives, dont on est référent.
Donc ça va le contact avec la nature, même ne serait-ce le voir la nature, c'est bénéfique. Il y a plein d'études scientifiques maintenant qui le démontrent, bel et bien.
Tout à fait. Donc voilà, donc on aura des élèves plus énergiques, on va aller voir se canaliser au contact de la nature, et pour les plus timides, s'ouvrir davantage.
Mm-hmm. Ah oui, vous l'avez constaté.
Voilà.
Bon, puis après, il y a les effets plus à long terme sur la santé humaine, qui est que finalement, le contact avec la nature, ça va être, même pour des maladies cardiovasculaires, ça va être un outil de prévention. Enfin, on ne va pas développer là, parce que vous n'êtes pas médecin, ni l'un ni l'autre, mais c'est vraiment quelque chose de bien établi désormais. Et donc, c'est en lien avec les missions de l'EPAGA, finalement, ce jardin, en quoi c'est en lien, en fait?
En fait, ça va reprendre un petit peu toutes les missions de l'EPAGA, hein, que ce soit la biodiversité et notamment aussi, là, moi, mon poste, c'est de travailler sur les arbres. Et c'est vrai que les arbres, c'est quand même une grande partie des jardins, souvent. Donc, on fait aussi tout un accompagnement autour des particuliers sur le choix des essences. C'est vrai que c'est assez important de bien choisir une essence avant de la planter dans son jardin. C'est bien de choisir une essence qui est bien dimensionnée par rapport à la taille du jardin, mais aussi par rapport à l'emplacement où on va vouloir mettre l'arbre. On ne va pas, par exemple, conseiller de mettre un chêne juste à côté d'une terrasse, parce que le chêne, dans 50 ans, il sera très grand et les racines vont pouvoir venir sous la maison ou sous la terrasse, par exemple.
Et puis peut-être que le chêne a besoin d'eau, accessoirement, la terrasse va peut-être l'empêcher d'avoir de l'eau, non ?
Oui, voilà, c'est ça, en fonction aussi de l'exposition du jardin et tout, on ne va pas choisir les mêmes essences. Et aussi, c'est bien de penser à la gestion qu'on va pouvoir donner à l'arbre, parce qu'en fait, les arbres, ils ont des croissances différentes. Il y a des arbres qui vont pousser très vite, des arbres qui vont pousser beaucoup plus lentement. Donc en fait, c'est important de réfléchir à la gestion qu'on va pouvoir donner à l'arbre. Est-ce qu'on va pouvoir lui donner beaucoup de temps à l'entretenir, ou est-ce qu'on justement veut plutôt une essence qui reste assez basse ou avec pas beaucoup d'entretien? Donc voilà, il faut vraiment pas hésiter de demander conseil aux pépiniéristes ou même à des professionnels, hein, pour avoir les meilleurs conseils pour une bonne implantation d'arbres.
Oui, et tout le monde n'a pas un parc, ça dépend aussi de la taille du jardin. Enfin, ça a du sens, même pour un petit jardin, d'avoir des arbres.
Oui, oui, tout à fait. Bah, que ce soit pour l'ombre, aussi pour la biodiversité, donc tout ce qui est oiseaux, insectes. Donc non, il y a vraiment tout un... Ça peut être des fruits aussi.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Est-ce que vous préconisez les arbres fruitiers et lesquels chez nous, par exemple ?
Alors, particulièrement à l'EPAGA, on bosse que sur des essences locales, en fait. Donc moi, je m'y connais pas trop dans tout ce qui est fruitier, de production. Mais on conseille des noisetiers, des châtaigniers, du pommier sauvage, du poirier sauvage, du néflier aussi. Voilà, c'est des essences locales qui peuvent très bien répondre à un besoin de consommation.
Mmh. Même des pommiers pas sauvages, hein, c'est bien adapté chez nous. Après, est-ce que vous avez déjà observé des changements liés au changement climatique dans les espèces qui tiennent plus ou moins ? Enfin, est-ce qu'on peut commencer à implanter, des espèces plus du sud, non ?
Alors, ça commence à être fait un petit peu plutôt sur le bocage. Après, je pense que dans les jardins aussi. Après, c'est vrai que moi, je ne suis pas spécialisée vraiment dans le jardin. Mais oui, il y a déjà des essences qui sont plutôt dans la partie sud de la France qui remontent de plus en plus dans les jardins pour s'adapter. Surtout en bordure de mer, par exemple, où les climats sont plus secs et plus arides. Donc là, on va introduire des espèces plutôt du sud pour justement pallier à ces aléas climatiques.
Et puis, il y a les arbres et les arbustes. Finalement, vous recommandez, j'imagine, plutôt des haies en pourtour de jardin, parce que là, on voit fleurir des très coûteuses clôtures rigides, notamment. J'imagine qu'à l'EPAGA, on n'est pas vraiment de ce point de vue-là.
Après, ça dépend, c'est sûr, mais une haie arborée, ça va être peut-être un petit peu plus d'entretien, mais ça va être beaucoup plus résilient par rapport au vent. Surtout si on est en bord de mer et tout, on va avoir des gros coups de vent, les barrières, elles vont plier. On a bien vu avec la tempête là, en novembre, il y a eu beaucoup de barrières qui sont tombées, en fait, alors que des arbustes qui sont implantés avec justement des bonnes essences, ça va quand même avoir une meilleure tenue par rapport aux tempêtes.
Oui, oui. Jonas, plus l'essence est locale, moindre sera le besoin en eau. Donc oui. une essence exotique aura un besoin en eau supérieur.
Et c'est quoi les essences locales pour les haies intéressantes ?
Ça va dépendre de l'objectif qu'on veut donner à sa haie, mais on peut mettre du troène, on peut mettre de la bourdaine, du noisetier, même si ça pousse un petit peu vite. Tout ce qui est fruitier que j'ai dit juste avant. Donc voilà, ça c'est vraiment les essences locales. Après, il y a aussi des essences un peu plus ornementales, mais qui sont adaptées aussi au climat.
Et alors, il y a aussi la question de, justement, je pensais aux haies. Bon, le problème, c'est qu'on a eu alors, les haies de laurier palme, les haies d'espèces même d'Eleagnus, ça pousse extrêmement vite. Les déchets verts, ça commence aussi à devenir un problème. D'ailleurs, qui ne devrait pas être qualifié de déchets, mais bon, les déchetteries, elles n'en peuvent plus de ces branches. Donc là, qu'est-ce que vous recommandez là-dessus ?
Oui, c'est vrai. En plus, il y a de plus en plus de déchetteries là, qui commencent à refuser un petit peu les déchets verts. Donc ça peut être de faire du broyage des végétaux. Et après, mettre le broyage au pied des haies, au pied des arbres, ça va vraiment garder l'humidité au pied de l'arbre. Et ça va permettre, en fait, en se décomposant, de donner les nutriments essentiels à l'arbre et à la haie. Aussi, s'il y a des problèmes par rapport à la tonte aussi, c'est vrai que c'est un assez gros problème, la tonte.
La tonte du gazon,
voilà, tout à fait.
Qui commence à être interdite aussi dans certaines déchetteries.
Voilà, c'est ça. Donc là, s'il y a des problèmes de mousse en fait, sur les pelouses, le fait de mettre on appelle ça le mulching, de laisser en fait, la tonte de pelouse sur le gazon, ça va éviter la mousse, en fait. Le développement de mousse. Et on peut aussi moins couper, en fait.
C'est
une des solutions qui, on le voit de plus en plus, surtout dans sur les espaces publics. Mm-hmm. Le fait, en fait, de faire la gestion différenciée, on appelle ça. Donc, c'est d'adapter le mode de coupe en fonction de la fréquentation du lieu. Donc, on va couper régulièrement, par exemple, les allées, si on veut aller de notre garage à notre maison ou de notre maison à notre compost. Et les zones un petit peu recluées, où on n'y va pas spécialement, on peut les couper une fois, deux fois par an seulement. Et ça va permettre en fait aux plantes de faire leur cycle complet de végétation. Et du coup, de laisser aussi aux papillons, aux pollinisateurs, de laisser faire leur cycle complet aussi. Et du coup, moins de déchets et moins de choses à gérer derrière.
Voilà. Et puis après, c'est vrai que les gazons, enfin, je veux dire, juste avec de l'herbe, ça peut aussi être vu. Ça. On peut aussi choisir des sortes de pelouses avec des espèces florales rampantes, c'est ça ? Vous en avez à nous recommander ?
Alors, sur les espèces, ouais, je ne saurais pas trop dire quelles espèces de plantes mettre, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'aménagements qui peuvent être faits pour la biodiversité, la pose de prairies fleuries et tout.
Mmh. Ça, on fera un sujet sur les prairies fleuries avec Bretagne Vivante jeudi, si ça vous intéresse.
Ah oui, super.
Et oui, un mot quand même de ces espèces invasives. Hein, quelles sont les variétés qu'il faudrait arrêter de planter dans nos haies et dans nos jardins ?
Alors, on a la renouée du Japon. Donc ça, c'est une espèce qui provient du Japon. Et on les voit beaucoup fleurir en bord de route. Ça fait des grands patchs de végétation, surtout là en ce moment. Et c'est très difficile de s'en débarrasser.
C'est interdit maintenant à la vente ou pas encore ?
Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a... C'est très long, en fait, pour faire changer les circuits de vente par rapport aux espèces invasives. L'herbe de la pampa aussi, les choses avec les grands pompons blancs, là, ça, c'est très, très dispersif. On a l'ail triquetre aussi et le laurier palme, en effet, qui se propage énormément dans les forêts plutôt de feuillus.
Et au détriment des feuillus, d'ailleurs.
Voilà, tout à fait.
Ouais, on peut donner en fait un exemple du danger lié aux espèces invasives. On peut parler de ce que l'on appelle communément l'arbre papillon.
Ah, le buddleia. Mmh.
Exactement. Qui est une plante en réalité. Le nom est assez trompeur. Un nom plus approprié serait plutôt cimetière à papillons.
Ah bon ?
Oui, donc c'est une espèce exotique originaire de Chine qui, finalement, par ses couleurs, va attirer les papillons. Le problème, c'est qu'elle ne produit aucun nectar. Donc, voilà.
Ah oui, parce qu'on les voit butiner à fond, c'est vrai. Enfin, moi, je l'ai constaté, mais en fait, ils ne se nourrissent pas. Enfin,
Voilà, vous l'aurez deviné, donc les papillons persistent, ils restent et s'épuisent donc, jusqu'à la mort. Donc, voilà. Donc, c'est important, même si on a un doute sur une espèce qu'on veut planter, c'est important de se renseigner. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, l'IA, on a un panel d'applications qui nous permet d'identifier une plante
oui,
en la photographiant.
PlanteNet, par exemple. Moi j'utilise, voilà. Ça marche bien.
C'est ça. Donc nous, on va citer personne, mais voilà. En tout cas, ça existe et c'est bien de les utiliser.
Oui, et donc ces applications mobiles ou Internet donnent des indications aussi sur le
caractère invasif ou non de la plante.
Voire toxique, j'imagine.
Voilà. Oui, tout à fait. Ouais.
Très souvent, en plus, ils proposent un outil de géolocalisation, donc ça nous permet aussi de nous situer dans le local. Est-ce que la plante...
est adapté au
voilà,
secteur.
À sa place dans la zone où on est situé.
Parce qu'en fait, ce qu'on dit plante invasive, en fait, c'est plante envahissante, c'est ça qui
plantes
sont pas...
Plante exotique envahissante.
Exotique, voilà, qui ne sont pas endémiques, enfin, qui ne sont pas du coin. Et donc, et qui peuvent donc se développer. Le problème, c'est qu'elles se développent au détriment des espèces locales ou même au détriment de notre santé. Il y en a qui sont dangereuses, en fait.
Oui, oui, il y en a qui peuvent être dangereuses aussi. Donc, c'est un gros sujet de... pour la biodiversité actuellement et dans les prochaines années à venir. Ouais.
On parlait des papillons, qui sont des auxiliaires de jardin, en tout cas qui sont des pollinisateurs. Il y a d'autres auxiliaires. C'est quoi les auxiliaires de jardin en général ?
Alors, on peut avoir donc les oiseaux, les chauves-souris ou encore les hérissons.
Alors, les chauves-souris mangent les moustiques, hein, c'est pour ça que...
Exactement, on va en parler. Donc là, pour les oiseaux d'abord, on a une multitude de nichoirs qui sont disponibles pour différentes espèces. Ce qui est bien, c'est que c'est assez efficace. Ça veut dire que si le dispositif est installé en l'hiver, il y a de grandes chances, en fait, 80%, 90% de chances qu'au printemps et à l'été, on voit les premiers résidents arriver. Donc ça c'est super et ça chasse aussi les moustiques, les petits insectes.
Donc qu'est-ce qu'il faut privilégier ? Parce que les nichoirs ils sont adaptés à chaque espèce d'oiseau, c'est un peu spécifique un nichoir, non ?
Oui, en fait il va avoir vraiment des tailles, surtout l'entrée en fait, du nichoir va être différent en fonction des espèces. Par exemple pour les mésanges ça va être un rond, alors que pour les moineaux ça va être plutôt des nichoirs de groupe parce qu'ils aiment bien vivre tous ensemble.
En troupeau, voilà. Une volée de moineaux.
C'est ça. Et du coup après l'exposition aussi importante, c'est bien d'orienter son nichoir en sud-est pour permettre justement aux oiseaux d'être protégés des vents et d'avoir aussi un petit peu de chaleur du sud. Voilà, et c'est des choses qui marchent très bien. Et puis c'est très ludique, en fait, quand on a des enfants, de voir, dès le printemps, les parents faire des allers-retours pour nourrir les petits, après d'entourner les petits et de les voir après s'envoler. C'est vrai que c'est très ludique à faire.
Et d'ailleurs, parenthèse, quand on a des haies, on héberge aussi des oiseaux sans nichoir, mais c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de tailler les haies entre le 30...
Alors c'est du 15 mars au 15 août, ça a été rallongé un petit peu. Donc c'est fortement déconseillé pour les particuliers, mais il n'y a pas d'interdiction pour les particuliers. L'interdiction s'applique uniquement pour les agriculteurs, mais voilà, en tant que structure publique, nous on conseille vraiment d'éviter la coupe entre le 15 mars et le 15 août.
Pour ne pas détruire les nids d'oiseaux.
Exactement.
Ouais, autre chose sur les...
Et donc, un autre auxiliaire aussi très utile, donc il existe également des nichoirs pour chauves-souris. Donc la chauve-souris, c'est un animal assez extraordinaire. Hein. On sait tous que l'été rime avec moustique. On ne le connaît que trop bien, ce bruit désagréable du moustique qui se fait la malle. Lourdement.
Je peux vous le faire si vous voulez. Hein.
Exactement. Lourdement chargé de notre litre de sang dûment récolté. Et bien une chauve-souris peut ingérer par nuit l'équivalent en poids de 3000 moustiques.
Formidable.
Donc c'est pas mal. Donc ceux qui nous piquent, c'est les survivants. Donc les chauves-souris sortent chasser chaque nuit autour de leurs habitats et sont de redoutables prédateurs pour ces insectes.
Et sans nichoir, qu'est-ce qui favorise les chauves-souris dans un jardin ?
Les ardoises, souvent ils vont se mettre dans la toiture, donc en fait c'est ce petit écart finalement entre le mur et le toit.
Et il y en a qui nichent dans les arbres, les chauves-souris ?
Oui, il y a des chauves-souris qui nichent dans les arbres, alors ça n'a pas être les mêmes espèces. Et les chauves-souris aussi ont besoin d'arbres, ont besoin de haies, en fait ils vont suivre les haies avec leur écolocalisation pour se repérer. Donc le fait d'avoir des arbres aussi, ça permet de diriger du coup les chauves-souris.
Ça leur fait des couloirs en fait ?
C'est ça, des corridors écologiques ou des couloirs, ouais.
Et puis un autre auxiliaire, mais qui est difficile, enfin qui a besoin de corridor justement, c'est le hérisson, c'est ça ?
Voilà.
En quoi il est utile, le hérisson ?
Tout à fait. Le hérisson, ça fait partie de la trame verte.
Voilà, il va venir manger tout ce qui est limaces. C'est vrai que c'est un gros problème au potager.
Ah oui, ça, oui.
C'est ça. Donc c'est un gros consommateur de limaces. Donc il va venir manger tout ce qui est petits mollusques, petites. Donc c'est vraiment intéressant d'en avoir au jardin.
Et donc on peut en fait créer des aménagements donc dans les linéaires qui sont aujourd'hui quand même clôturés. De le rendre moins hermétique en fait, le linéaire de clôture.
Des trous dans le grillage, c'est ça?
Exactement, ouais. En dessous, en bas, pour le laisser passer.
Ouais, parce qu'en fait c'est ça, il a besoin d'un grand territoire, enfin, c'est difficile de garder un hérisson en fait, il doit se promener, c'est ça?
Voilà, exactement.
Ouais. Donc si on est entouré de routes, on n'aura pas de hérisson.
Non.
Pour ce qui est des jardiniers qui jardinent, enfin, notamment les personnes qui plantent des potagers, mais pas seulement. Il faut rappeler que, évidemment, on n'utilise plus du tout de produits de synthèse, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Alors, depuis 2017, en fait, il y a la loi Labbé qui est entrée en vigueur. Donc, en 2017, il y avait une interdiction des produits phytosanitaires dans tous les lieux accueillant le public. Donc, ça veut dire les espaces verts, les voiries, les forêts. Et en 2019, l'interdiction a été étendue à la vente des produits phytosanitaires aux particuliers. Donc il n'y avait plus le droit pour les magasins de les vendre aux particuliers. Et du coup, les particuliers ne peuvent plus utiliser, stocker des pesticides pour jardiner ou pour désherber. Et en 2022, donc, cette interdiction a été étendue à tous les lieux privés à usage collectif, donc les hôtels, les campings, les résidences.
Puis il y a aussi des lieux publics aussi maintenant, enfin je sais pas, les cimetières par exemple.
Oui, les cimetières aussi maintenant, voilà. C'est interdit. Donc voilà, c'est de trouver des alternatives aux produits phytosanitaires. Notamment on peut parler du désherbage au chalumeau. Ça peut être aussi le binage, on appelle ça, d'enlever les petites herbes avec une machine. Et aussi on en voit plus en plus, c'est d'enherber les cimetières pour passer la tondeuse, moins du coup avoir une uniformité du cimetière.
Puis accepter un peu plus de végétation, hein, pour les raisons qu'on a déjà citées en début d'émission. La végétation, elle ne nous veut pas de mal, au contraire. On avait évoqué les déchets, mais en fait les déchets verts, c'est pas vraiment des déchets, ça devrait être des ressources, on est d'accord, mais en revanche il y a des déchets dont il faut absolument se méfier et qu'il faudrait bannir du jardin, enfin, c'est tout ce qui est en plastique, c'est ça, ou des choses comme ça
Oui, les plastiques c'est un gros problème de déchets, on en entend beaucoup parler. Notamment, bah, ils peuvent s'envoler assez facilement, surtout sur les bâches en plastique, sur les paillages de bâches en plastique, ça peut s'envoler. Et du coup, ça va rejoindre les grues et les grilles d'eau pluviale aussi.
Parce que quand on bâche son talus là, pour ne pas faire venir les mauvaises herbes, c'est toujours du plastique, ce que les bâches qui sont mises.
Il y a du géotextile.
Et ouais. Le géotextile, il n'y a pas de plastique dedans ?
Il y en a.
Ah, voilà. Et donc ça se dégrade ?
Ça se dégrade, mais ça fait du microplastique.
Voilà. Et après, et ça va où ?
Le microplastique, ben, ça va dans la terre, soit ça va suivre les lignes d'écoulement d'eau et ça va arriver donc dans les rivières. Et notamment, bah, on peut dire qu'on mange l'équivalent d'une carte bleue par semaine de microplastique.
Par semaine ?
Oui, par semaine.
Oui, c'est ça. Mm-hmm. Donc, il faut bien voir ça à l'esprit. C'est que, voilà, on veut mettre ça à bâche pour ne pas avoir de mauvaises herbes. Il vaut mieux avoir les mauvaises herbes, quoi, en fait.
Ouais, les herbes indésirables, on dit.
C'est ça, oui. Et même, je pensais à tout ce qui est pots pour jardiner. Enfin, on a recours à des pots en plastique aussi. Enfin, c'est pareil, ça se dégrade aussi, ou peut-être moins...
Bah, le mieux, c'est de toute façon, c'est de les mettre au recyclage, en fait. Soit de les réutiliser ou de les recycler, quoi, mais ou de les réutiliser, ouais.
Ou d'utiliser des pots végétaux.
C'est ça.
Ou fabriquer ces pots avec du papier journal.
C'est ça, des cookies d'œufs, des boîtes à œufs.
Ah oui, les boîtes d'œufs aussi, mm-hmm. C'est vrai. Alors, on parlait aussi de l'eau, qui est un problème, enfin, qui pourrait devenir un problème.
Alors, oui, Jonas, donc, on sait tous que l'eau, c'est une ressource précieuse. On a pu le voir en 2022. Mm-hmm. Donc pour reprendre un peu la chronologie des événements, le 17 juin 2022, on avait un arrêté de vigilance sécheresse. Donc là, c'était une campagne de communication, une sensibilisation seulement. Ensuite, le 16 juillet 2022, on a eu un arrêté d'alerte renforcée. Donc là, il y a des restrictions qui vont s'imposer.
Notamment, on ne peut plus arroser le jardin, c'est là ?
Alors voilà, interdiction de l'arrosage des pelouses et massifs fleuris et des jardins potagers entre 11h et 18h. Et ensuite, la dernière étape, hein, c'est vraiment quand l'eau vient vraiment à manquer. Donc là, un arrêté de crise le 10 août 2022. Donc c'était interdiction d'arrosage des pelouses et massifs fleuris. Donc c'était catégorique.
Interdit tout le temps. Voilà.
Exactement. Mmh. Et les jardins potagers vont pouvoir être arrosés qu'entre 20h du soir et 9h du matin. Et donc ça a duré jusqu'à mi-octobre pour situer presque 2 mois.
Et c'est là que c'est intéressant donc, d'avoir un paillage qui permet de garder l'eau dans le sol. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme méthode pour arroser moins, en fait, quoi.
Alors voilà, à l'échelle d'un particulier, c'est quand même possible d'agir. Il y a différents aménagements. Le plus simple et le plus fréquent, ce sera le récupérateur d'eau, qui est raccordé au système de gouttière de la maison. Il y en a certains qui permettent de stocker jusqu'à 1000 litres d'eau, ce qui n'est pas négligeable en période de sécheresse. Il y a aussi les noues paysagères et les puits d'infiltration également.
Qu'est-ce que c'est les noues paysagères ?
Donc les noues paysagères, hein, c'est une sorte de petit fossé végétalisé avec des pentes douces. Ça va recueillir l'eau de pluie et de ruissellement pour la laisser s'infiltrer afin de reconstituer les nappes et éviter un assèchement progressif des sols.
Et il y a d'autres dispositifs encore ? Je sais pas, on parle beaucoup des OIA, là. C'est ces pots en terre qu'on enterre là.
Alors oui, ouais. Donc ça, il y a aussi des artisans qui proposent ce genre de dispositif, c'est très intéressant. Et puis ça retient l'eau finalement presque 7 jours. Donc tous les 7 jours, on peut, dans son OIA, donc, mettre de l'eau et ça va alimenter un potager. Donc on peut en mettre plusieurs entre chaque plant pour alimenter un potager.
Et là, on n'a pas besoin d'arroser, en gros.
Enfin,
sur peut-être certaines espèces très gourmandes. Sur l'eau, alors si on a un jardin assez grand, on peut tenter de faire une mare. Il y a des choses à savoir, ceci dit, pour faire une mare, c'est ça ?
Alors oui, donc la mare, ça va permettre au jardin d'être plus résilient au niveau climatique. Donc du coup, en fait, ça va créer un îlot de fraîcheur, autant profitable pour les humains que pour la biodiversité. Donc pour faire une mare, il faut respecter en fait un nivelage. Quand on crée une mare, en fait, il y a trois niveaux, hein, si je ne me trompe pas. Donc, ça va permettre d'apporter des plantes. Des
micro-habitats, voilà. En fait, sur chaque...
Il faut des pentes assez douces, en fait, c'est ça ?
C'est ça, oui, c'est ça.
Si c'est trop raide, les plantes ne pourront pas s'installer, certains animaux vont se noyer.
Voilà, c'est
en
ça.
Plus, ouais, c'est ça, il ne faut pas croire. Il faut une surface minimale, j'imagine, pour une mare, non ?
Pas spécialement, hein, ça peut être assez petit. Après, ça dépend aussi de la taille de notre jardin. Hein. On peut l'adapter en fait à la taille de notre jardin. Donc, c'est important de bien végétaliser aussi toute la mare. Voilà, et puis ça va permettre vraiment de faire un îlot de fraîcheur et de mettre des plantes qui ont peut-être un besoin d'eau à côté de la mare. Mmh. Et voilà, ça permet d'avoir différents micro-écosystèmes dans.
Et on la laisse se remplir naturellement. Hein. On ne va pas mettre de l'eau du robinet dans la mare. On est d'accord.
Non. justement, ouais. On va profiter de la période hivernale pour qu'elle se remplisse toute seule.
Voilà, on peut aussi déconnecter en fait la gouttière et la mettre, la faire aller justement dans la mare.
Ah bah oui.
Voilà.
Ça dépend. D'autres choses à savoir sur l'eau au jardin à préciser ? Non ? Et alors, il y a un dernier élément auquel on ne pense pas toujours, parce qu'on pense beaucoup végétaux, et puis il y a un élément plus immatériel qui est la lumière. Enfin, c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup de lampes qui fleurissent dans le jardin, mais est-ce que c'est une si bonne idée que ça, les lampes ? Vu qu'on ne se promène pas dans son jardin la nuit, la plupart du temps.
Non, alors ce qui est bien pour les lampes, déjà, il faut savoir que 85% du territoire français subit des pressions dues à la pollution lumineuse. Donc il y a quand même vraiment une grande majorité du territoire qui est éclairé la nuit. Donc dans le jardin, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut utiliser des lampes à détecteur de mouvement. Voilà, ça permet d'allumer seulement quand il y a quelqu'un qui passe.
Pas trop sensible en plus, parce que si la chauve-souris passe et que ça s'allume.
C'est ça. Et c'est bien aussi d'utiliser des lampes qui vont éclairer uniquement le sol et pas le haut. Parce que du coup, ça va moins se voir en fait, pour les chauves-souris, les insectes. Le fait d'éclairer uniquement le bas, uniquement le chemin, ça va être un gain pour la biodiversité.
Et pour les humains qui essayent de dormir accessoirement aussi.
C'est ça. Et d'utiliser aussi des lampes avec des lumières plutôt douces, donc plutôt ambrées et pas des lumières blanches qui vont être beaucoup plus agressives pour les espèces.
Eh bien, c'est bien noté. Merci pour tous ces conseils. On retrouvera certainement les Pagas la saison prochaine. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le site internet de Transistor qui s'appelle toujours radioévasion.net.